Pour revenir sur l'explosion de la FM, des radios libres et la création des réseaux FM, un chapitre de l'histoire des radios qui est contemporain de la création de radios éphémères et aussi le moment où se cristallise l'identité de notre station, il me semblait opportun de parler à un autre historien de ce média. Je reçois par satellite Jean-Marc Prince, créateur du site annuaire de la radio.fr, fondateur et principal auteur du site 100 ans de radio.fr, écrit aussi dans les cahiers de l'histoire de la radiodiffusion, et toujours à l'écoute des bonnes ondes.
CPU, carré, petit utile.
Pour commencer, et que ce serait dommage de limiter votre domaine d'expertise sur 40 années, j'aimerais surtout vous faire l'éloge de votre site 100 ans de radio, rempli de documents absolument formidables. Je suppose qu'il y avait une envie de partager, ou c'était parce que justement vous trouviez vous-même peu de documents.
Ouais, c'était avant tout une passion quand j'étais étudiant, donc dans les années 70. Voilà, et puis avec l'apparition de l'Internet à la fin des années 90, je me suis dit que plutôt que de conserver toutes ces archives que j'avais accumulées depuis l'âge de 20 ans dans mes tiroirs et dans mes classeurs personnels, ça pouvait être une bonne idée de les partager sur le net et gratuitement. Donc j'ai fondé en 98 mon premier site internet, qui a été aussi en fait le premier site en France qui était consacré à l'histoire de la radio.
Il y a des difficultés à trouver des renseignements, lesquels particulièrement?
Alors au début, il y avait très peu de radios dans les années 70, comme vous le savez, il y avait quelques radios périphériques et puis France Inter, grosso modo. Donc je leur avais à toutes envoyé un petit courrier, je leur avais écrit, je les avais visités, j'avais visité aussi leurs archives qui étaient ouvertes à l'époque. Ensuite ça a été un peu plus compliqué avec l'avenue des radios libres. Là du coup on s'est retrouvé avec une profusion de stations de radio, mais j'en ai visité beaucoup, j'en ai fait un petit peu aussi. Et puis j'ai continué à accumuler mes archives. C'est surtout à partir du moment où j'ai mis ces archives en ligne où là j'ai eu vraiment des échanges intéressants avec des passionnés de radio d'une part, et puis surtout des anciens de la radio, qui eux aussi avaient conservé leurs propres archives personnelles et me les ont confiées pour les partager sur le net. Donc on va dire qu'à partir de 98, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les passionnés de radio et les anciens de radio, et mon site s'est amplifié très rapidement, et on peut dire qu'à ce jour, il y a eu à peu près 400 contributeurs qui sont intervenus sur le site 100 ans de radio pour alimenter en archives sonores, en photos, en documents divers. Mais les archives sonores, c'est néanmoins compliqué à trouver, parce que dans les années 20 jusque dans les années 40, il n'y avait aucun enregistrement, parce que le magnétophone n'était tout simplement pas inventé. C'est à partir des années 40 qu'on a inventé le magnétophone, mais bon, les émissions n'étaient pas pour autant enregistrées. Très peu étaient enregistrées, quelques-unes sur disque, surtout les émissions publicitaires. Et il n'y a vraiment que dans les années 90, voire 2000 même, où on a procédé à un enregistrement systématique des émissions. Et évidemment, avec la mode du podcast, qui est quand même quelque chose d'assez récent, maintenant, on peut dire qu'on a des archives sonores pour le futur, là, qui sont très, très abondantes, puisque chaque émission est enregistrée aujourd'hui.
Je tiens à signaler quand même à nos amis auditeurs et audilecteurs, je le reconnais, je le concède. Malheureusement, j'ai bien des archives jusqu'en 93, mais hors de question de les dérocher sur cassette. Ça a été vraiment l'arrivée du format podcast en 2004 qui fait que justement on a numérisé systématiquement et semaine après semaine les émissions. Et c'est pour ça que justement on a la possibilité de remonter à pas mal d'archives. D'ailleurs, c'est le cas pour la plupart des radios.
Bien sûr.
Il y a eu aussi d'ailleurs une difficulté pour pas mal de radios pour apprendre à partager leurs archives. Ça, c'est autre chose. On ne va pas y revenir. On en revient aux radios FM. Le monopole d'État de la radio est enfin ouvert en 1981, après une longue période de chasse aux radios pirates. Le service juridique me prie de rappeler que Radio FMR n'a été lancé qu'en décembre 1981, bien évidemment. Quel est alors le statut de ces radios?
Le premier statut est associatif, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas créer une nouvelle radio qui sera autorisée si on n'est pas une association. Et puis les dérogations qui sont données sont jamais que des dérogations, c'est-à-dire que le monopole continue à exister, mais on veut bien déroger de manière précaire et puis révocable. Donc toutes les autorisations peuvent être supprimées du jour au lendemain. Mais elles sont accordées uniquement par la haute autorité de l'audiovisuel qui s'est mise en place en 81, uniquement à des associations. Ça, c'est le premier régime. Bon, c'était fait pour préserver évidemment le secteur associatif, parce qu'à l'époque, il n'était pas question de développer les radios commerciales. Néanmoins, très vite, le secteur commercial a fini par se développer.
Qui dit associatif dit quand même bonne volonté des bénévoles, mais il y a quand même de l'équipement, il y a des locaux à louer et un emplacement à trouver pour y poser un émetteur, donc il faut quand même un financement. Quel est le financement finalement de ces radios? Est-ce que finalement on a seulement ouvert et on leur a dit ben, débrouillez-vous pour le financement?
À l'époque, le paysage était quand même très très divers. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois des passionnés, des jeunes passionnés de radio qui créaient leur petite radio, mais il y avait aussi une grande partie des municipalités, des grandes villes françaises qui ont voulu avoir leur radio, parce que évidemment, c'est quand même important de pouvoir avoir un média supplémentaire. Il y a eu aussi les journaux qui ont eu aussi leur radio, parce que les journaux craignaient que la radio vienne un petit peu grignoter un jour leur marché publicitaire, et puis surtout qu'il y ait une autre voie de l'information locale qui s'exprime. Donc les municipalités, c'est très simple, elles ont subventionné avec des subventions municipales leur radio municipale. Les journaux, ils ont exploité des radios plus ou moins à perte, mais l'objectif n'était pas pour les journaux d'engranger des recettes publicitaires, c'était surtout de contrôler le marché local. Puis ensuite, certaines radios avaient derrière elles des structures qui ont permis leur financement. Par exemple, les radios religieuses ont été financées par les chrétiens, par les évangélistes, etc. Les radios politiques étaient financées par les partis politiques ou les syndicats. Donc les modes de financement ont été très divers au début. Comment financer une association? C'est souvent avec les cotisations des adhérents, donc ça aussi, ça a alimenté les petites stations. Elles ont essayé plus ou moins de faire rentrer de l'argent en vendant donc des cartes d'adhérents, des autocollants, des photos, des entrées pour les spectacles ou les émissions publiques qu'elles proposaient. Donc, mais tout ça, c'était quand même des financements assez précaires et pas très pérennes. Donc l'essentiel quand même des financements dès le début a été par la commercialisation d'espaces publicitaires qui était interdit, mais
c'était totalement interdit. Oui.
Ah, c'était interdit, mais bon, c'était plus ou moins clandestin, c'est-à-dire c'était de la publicité un petit peu masquée, c'était un peu du sponsoring, mais certaines radios ont fait de la publicité ouvertement sans avoir de difficultés particulières. Et puis très vite, puisqu'en 84 en fait on s'est aperçu que il n'était pas possible de faire vivre un secteur radiophonique sans moyens de financement conséquents, et donc on a ouvert les radios libres à la publicité.
40 ans après notre création, CPU, l'émission Carré Petit Utile, revient sur l'histoire des radios libres et la création des grands réseaux FM avec Jean-Marc Prince, créateur du site annuaire de la radio.fr et s'entendre-radio.fr. Alors donc, à partir de 1984... la publicité autorisée sur ce que l'on appelle à l'époque les radios locales privées, il n'y a qu'un seul statut. Et c'est là qu'on va avoir la différence entre radio associative et radio commerciale. Quelles sont alors les règles du jeu ?
Pour les radios commerciales, c'est-à-dire que, elles pouvaient évidemment quitter le statut d'associatif, donc elles se sont transformées en SARL, en SA, et le marché publicitaire leur a été totalement ouvert. Enfin, c'est-à-dire que pour des radios qui avaient un programme local, elles avaient le droit de prospecter localement la publicité. Et pour les radios qui avaient un programme national, elles ne pouvaient pas faire appel à la publicité locale. C'est-à-dire que quand un réseau rachetait une radio locale, il fallait qu'il propose un programme local pour pouvoir prospecter le marché local. Il n'y avait pas possibilité d'avoir de la publicité locale pour un relais passif d'une radio nationale.
Oui, c'est là où on a le début de notion de réseau pour les radios privées, quoi.
Voilà,
jusqu'ici, ça n'existait pas. Et en 1984, il y a un événement qui fait que ça s'est libéré. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le coup de force, qui a fait une manif là-dessus.
Énergie a été une radio qui a été à un moment donné interdite par le pouvoir parce que elle ne respectait pas sa puissance d'émission, surtout sur Paris. Mais comme c'est une radio qui avait réussi à se rendre très très populaire et très rapidement, elle a réussi à mobiliser la jeunesse qui a défilé dans la rue à Paris pour défendre son antenne. Tout le show business parisien, bien évidemment, était derrière Énergie aussi parce qu'eux avaient intérêt à ce que leur disque passe à l'antenne. Donc, il y a eu une mobilisation sans précédent. Effectivement, ça bousculait un petit peu le gouvernement qui voulait préserver le secteur associatif. Et il a bien fallu ouvrir, donc, effectivement, la radio à un financement publicitaire.
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que tout simplement la programmation musicale avant 80 sur les trois chaînes de télé, sur le service public et sur les radios périphériques a très peu de place pour la variété internationale, pour ce qu'on appellerait maintenant la pop et tout le reste, et même pour le rock tout court. Et c'est ce qui a poussé justement les radios locales privées à exister avant même l'idée même d'en faire un financement publicitaire. Et c'est ce qui avait fait le succès de NRJ.
Oui, il faut voir d'où on venait effectivement. Les radios périphériques, si on écoute leurs programmes, moi j'ai pas mal d'archives sur mon site qui concernent des émissions des radios périphériques, donc des années 60 ou 70, c'était vraiment les maisons de disques françaises qui dominaient totalement la programmation des radios, avec des artistes français évidemment, mais on n'avait pas du tout la même programmation musicale qui a été mise en place dans les années 80 par les radios libres, et puis ensuite par les radios commerciales. Très peu de rock, très peu de musique anglo-saxonne. Tout ça s'est apparu vraiment dans les années 80 avec le mouvement des radios libres.
Il y a donc de la publicité qui est diffusée, il y a donc une règle du jeu sur la notion de réseau ou la notion de local, mais comment sont commercialisés les encarts publicitaires ? C'est du sponsoring, c'est de la diffusion de spots et surtout par qui ?
Alors, au niveau des radios associatives, il y a eu dans la loi une tolérance, c'est-à-dire d'autoriser un financement par la publicité à hauteur de 20% des recettes de la radio. Il fallait pas que Alors, certaines radios se refusaient totalement à diffuser de la publicité. Je crois que c'était le cas d'Éphémère. Hein.
C'est toujours le cas.
Ouais, c'est toujours le cas. Voilà, donc ça c'est un choix qui fait. Mais chaque radio associative avait la possibilité néanmoins d'engager à hauteur de 20% de ses recettes, encore une fois, ce qui est quand même assez peu, des recettes publicitaires. Bon, le choix du sponsoring a été aussi souvent un choix plus soft, on va dire, que le message publicitaire pur et dur. Alors le sponsoring, c'est simplement faire financer une émission par un annonceur local ou peu importe, ou même national, pourquoi pas, mais de manière assez discrète, quoi. Hein. Donc c'est moins agressif que le message publicitaire. Donc le sponsoring, c'est surtout développé, je dirais peut-être sur les radios associatives davantage que sur les radios commerciales, qui elles ont plutôt mis en place des équipes commerciales sur le terrain pour aller prospecter les commerçants, hein, tout simplement, les entreprises pour pouvoir acheter du temps d'antenne, hein, tout simplement. Hein, donc avec des spots de 15 secondes, 30 secondes, etc. Quoi, hein, voilà comment fonctionnait un petit peu le travail commercial sur le terrain de à la fois des réseaux et des radios commerciales indépendantes.
Il y a quand même des garde-fous qui sont posé par la CNCL, qui est l'ancêtre du CSA, de l'ARCOM, je m'y perds, à la fois sur la constitution de réseau et à la fois sur le domaine publicitaire. Et en même temps, il y a ce que vous dites, il y a des niveaux budgétaires qui sont limités pour la publicité. Lesquels sont-ils exactement ?
Avec la création du CSA, donc c'était en 89, le CSA a succédé donc à la Haute Autorité, puis à la CNCL. En 89, il a créé des comités techniques de terrain, c'est-à-dire dans chaque région, il y avait un comité qui choisissait les radios qui pouvaient être autorisées ou non. Hein. Donc on était quand même plus près du terrain. Et il y a eu surtout l'invention, je dirais, des catégories A, B, C, D, E, qui classaient les radios. Et il fallait que dans chaque ville, dans chaque région de France, il y a un équilibre entre ces catégories. Alors, la catégorie A, c'était les radios associatives, hein, comme éphémère. La catégorie B, c'était les radios locales commerciales qui ne faisaient pas partie d'un réseau. La catégorie C, c'était les locales franchisées, c'est-à-dire quand NRJ, par exemple, ou Nostalgie avait une équipe locale dans une ville, elle rentrait dans cette catégorie C, c'est-à-dire donc des radios indépendantes mais qui étaient franchisées. La catégorie D, c'était les réseaux nationaux qui étaient diffusés en passif sur toute la France. Et la catégorie E, c'était les radios généralistes, c'est-à-dire les anciennes radios périphériques, Europe 1, RTL, RMC, etc. Hein. Voilà. Donc il fallait que, et puis il y avait aussi le service public, hein, par ailleurs. Hein. Il fallait quand même que quand on faisait une demande d'autorisation, c'est d'ailleurs toujours le cas, il fallait qu'on s'inscrive dans une de ces catégories. Et donc le CSA choisissait les radios en fonction d'un équilibre des catégories A, B, C, D, E. Donc ça, c'était un premier garde-fou quand même important. Ensuite, il y a eu un certain nombre de dispositions, de lois, de règlements qui ont un petit peu réglementé les attributions de fréquences. Alors, il y a eu les quotas aussi de chansons françaises, parce qu'on s'est aperçu très vite que la variété anglo-saxonne s'était développée de manière importante sur toutes ces antennes. Donc, on a le CSA a obligé les radios à respecter un quota de 40% de...
Voilà, historiquement, oui. C'était pas le CSA. Le CSA était même pas exactement d'accord. C'est la loi
Toubon.
Oui,
c'est vrai. Vous avez raison.
Le CSA avait protégé, puisque en fait, le CSA faisait déjà des accords par radio suivant leur type de programmation, ce qui empêchait justement d'imposer 40% de chansons françaises à radio classique, ou à jazz CSF, ce qui était complètement idiot.
Oui, mais... bien sûr. Oui, oui. Non, c'était effectivement une loi qui avait été imposée, mais bon, le CSA était chargé de la faire appliquer néanmoins et contrôler que les quotas étaient bien respectés. Mais enfin, bon, comme vous le dites justement pour Radio Classique ou pour des radios comme FG, etc.
Ouais, ils ont aménagé après coup.
Était difficile de faire rentrer, je dirais, de la chanson française sur une antenne qui était formatée pour passer diffuser un autre type de musique. Hein. Il y a eu aussi des quotas de production, de nouvelles productions, donc il fallait aussi un certain pourcentage de production récente. Il y a eu des lois anti-concentration qui ont été mises en place aussi. Les lois anti-concentration ont été destinées à faire en sorte que les réseaux ne soient pas tous détenus par la même personne, hein, d'une part, et puis aussi avec des bassins de population qui permettaient quand même de limiter un petit peu des réseaux qui risquaient de grossir très rapidement. Donc ces lois anti-concentration ont été destinées aussi à protéger un petit peu le marché local, d'une part, et puis le secteur associatif. Hein. Et puis il y a eu aussi la création du fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui était quand même important, parce que c'est ce fonds qui était dans un premier temps constitué d'une taxe sur la publicité radiophonique et télévisuelle aussi, est destiné à financer les radios associatives. C'est d'ailleurs toujours le cas, sauf qu'aujourd'hui c'est une dotation de l'État, je crois, qui assure ce financement. Mais les radios donc associatives ont pu bénéficier de subventions par le FSER pour leur permettre de vivre, d'avoir quand même une ressource non négligeable, qui était destiné à leur fonctionnement courant, je dirais, de tous les jours, qui était aussi financé de cette manière.
Et je ne l'ai pas retrouvé, mais je me souviens d'une interview de Patrick Lelay, je crois, vers 98-99 dans Télérama, je crois, où en fait il disait que c'était l'une des rares taxes sur lesquelles TF1 était imposée, qui disait qu'il était vraiment utile pour son métier, contrairement aux taxes de la CNC et tout. Et il en avait fait les éloges. Dans les colonnes Télérama, j'étais tombé des nues à l'époque, c'était assez surprenant. Il y a une méthode de constitution des réseaux FM, puisqu'ils vont commencer à apparaître officiellement en 84, avec justement la création de programmes à diffuser et tout ça, mais il y a une constitution de réseau qui est assez particulière, qu'on appelle la stratégie Baudecroux, du nom du fondateur et toujours patron du groupe Énergie. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, Énergie, effectivement, était véritablement déjà le premier réseau à se développer très rapidement. Hein. Les autres ont suivi, ont pris en fait son chemin comme exemple. Mais avant de pouvoir se développer, il ne se serait jamais développé si ça n'avait pas été une antenne déjà populaire, avec un auditoire important, une grande popularité auprès de la jeunesse. Donc ça, c'était quand même la première des conditions. C'est d'avoir une force, et sa force était son auditoire. Hein. Donc à partir de là, il a décidé donc de se développer en région, mais la loi interdisait à un même groupe ou à une même personne de détenir plusieurs fréquences à travers la France. Donc ce qui était la seule chose qui était possible de faire, c'était de développer le système dit de franchise. C'est-à-dire que les stations qui voulaient prendre l'enseigne Énergie restaient indépendantes, mais signaient un contrat de franchise qui leur permettait à la fois d'utiliser le nom d'Énergie, le logo, mais aussi le formatage de l'antenne. Il fallait que l'antenne Énergie de Toulouse soit la même que celle de Lille ou de Strasbourg ou de Brest, c'est-à-dire qu'on ait une programmation qui soit de même nature. Et il y a aussi des méthodes de gestion qui étaient imposées dans ces contrats de franchise, qui disaient clairement que, bon, pourquoi avoir 30 animateurs quand on peut en avoir que 5 ? Donc, globalement, bien évidemment, chaque fois qu'une station franchisée devenait Énergie, il y avait peut-être pas des licenciements parce qu'il y avait encore beaucoup de bénévoles, mais enfin, il y avait beaucoup moins d'animateurs à l'antenne que précédemment. Hein. Bon. Mais le système des franchises a eu une limite, et notamment pour Énergie, parce qu'à un moment donné, il y a eu une dissidence dans le sud de la France qui s'est manifestée, dont à Toulouse d'ailleurs, Énergie Toulouse a été un petit peu en tête dans cette dissidence, et il y a un certain nombre de stations Énergie franchisées qui se sont rassemblées dans le sud de la France et qui ont créé le réseau Fun Radio. Et donc là, à partir de ce jour-là, donc elles se sont dégagées totalement d'Énergie, elles ont profité quand même de la popularité qu'elles avaient engrangée grâce à Énergie pour conserver leur indépendance, mais surtout changer de changer d'enseigne et devenir Fun Radio. Donc Énergie s'est dit, le système des franchises n'est pas tout à fait parfait parce que on contrôle quand même pas complètement nos franchisés. Le service juridique du groupe Énergie à l'époque a fait preuve de beaucoup d'originalité et de recherche pour monter un meilleur contrôle de ses franchisés, donc par le biais de prise de participation dans le capital des radios, qui était d'abord minoritaire. Des montages juridiques très complexes, qui peu à peu a fait en sorte que ces radios franchisées étaient pieds et poings liés. Déjà, on n'autorisait pas un franchisé à avoir plus de deux fréquences. Il en avait une, mais pas deux. Donc ça permettait déjà de couper l'herbe sur le pied à tous ceux qui souhaitaient un jour reprendre une indépendance totale. Donc Énergie a été un petit peu le premier à constituer véritablement des réseaux qui n'avaient plus tout à fait la forme de franchise, même si juridiquement c'était toujours des franchises. Et puis par la suite, dans les années 90, il n'y a plus eu ce problème au niveau de la législation, et donc les réseaux ont pu se constituer de manière plus facile, on va dire.
Plus il y avait aussi un autre volet de la constitution de la régie publicitaire Énergie et leur filiale chargée de la diffusion, et que les radios qui étaient censées entrer indirectement dans le groupe étaient obligées de passer par donc leur filiale de diffusion qui s'appelle Towercast.
Towercast. Oui, ça a été une étape importante aussi, parce que dans un premier temps, la diffusion était restée un monopole d'État de TDF, même après 81. Et c'est seulement en 80, je crois que c'était 85 ou 86, j'ai plus mémoire exacte de la date, mais enfin c'était à peu près dans ces eaux-là, où le monopole de la diffusion a été abandonné également, et donc Énergie s'est dit pourquoi dépendre de TDF, pourquoi on va créer notre propre société de diffusion, donc qui s'appelait Towercast, et Énergie a proposé donc à l'ensemble de ses franchisés, évidemment, enfin proposé, imposé, on va dire entre guillemets, de passer par Towercast pour pouvoir diffuser leur antenne locale. Donc c'était déjà un meilleur contrôle également des franchisés, bien évidemment. Et Towercast s'est aussi ouvert à d'autres radios qui n'étaient pas forcément franchisés Énergie. C'était comme TDF ne
passe pas que Radio France,
les radios de Radio France, diffusaient aussi des radios locales privées ou associatives. Towercast s'est ouvert à d'autres radios, ce qui lui a permis aussi d'avoir des relations commerciales avec d'autres radios qui pouvaient demain devenir de futurs franchisés également. Donc ça a été effectivement un point très important. Et il y a une troisième chose aussi qui a marqué un petit peu ce réseau Énergie, c'est que une fois qu'ils avaient, en fait, leur tactique, c'était de prendre la meilleure fréquence dans une ville. Et puis, il y avait beaucoup de candidats quand même, parce que les radios, certaines arrivaient à équilibrer leur compte, mais grosso modo, très peu en vivaient correctement. Donc, il y avait beaucoup de candidats en région pour prendre la franchise Énergie. Et donc, Énergie se réservait vraiment, faisait un véritable choix de la radio locale la plus populaire, celle qui était la plus professionnelle, celle qui avait des animateurs populaires, une technique au point, etc. Donc voilà, à un moment donné, quand ils avaient pris la meilleure radio de chaque région, il y avait les demandes continuaient. Donc l'idée d'Énergie a été de créer d'autres réseaux. Donc il y a eu la création du réseau Chéri FM, et puis ensuite il y a eu la création du réseau Rire et Chanson, ce qui faisait qu'il y avait trois réseaux qui pouvaient rassembler la totalité quasiment des fréquences locales à travers toute la France.
Et assez tôt, c'est à la fin des années 80, ils ont déjà ces trois réseaux, puis après ils vont racheter Nostalgie plus tard.
Après ils ont racheté Nostalgie, oui, tout à fait.
Ouais. CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et on revient sur l'histoire des radios libres et la création des grands réseaux FM avec Jean-Marc Prince, fondateur et principal auteur de l'excellent site centandoradio.fr. Durant les années 80-90, qu'est-ce qui guide la création des réseaux? Des arrière-pensées politiques ou uniquement des économies d'échelle?
Alors, les arrière-pensées politiques, il y en a eu effectivement, mais des radios purement politiques, il y en a eu très peu finalement, et des réseaux politiques très peu aussi. Il y a eu un cas d'une radio qui avait été créée par le Parti communiste qui s'appelait TSF, qui a créé quand même un réseau national, donc avec des fréquences un petit peu dans toute la France. Elles n'étaient pas très nombreuses, mais elles couvraient quand même une bonne partie du territoire. Mais bon, ce réseau n'a pas eu une durée de vie très longue. Il a été racheté en 99 par le groupe Nova Press, donc Radio Nova à Paris, pour en faire en fait une radio musicale jazz, qui existe d'ailleurs toujours. Ensuite, il y a eu effectivement aussi des idées politiques, au moins des idées religieuses qui ont pu être diffusées par réseau, notamment le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. RCF. voilà, qui a créé un réseau qui est toujours existant aujourd'hui, et qui comprend quand même une cinquantaine de stations à peu près, en France et en Belgique, je crois. Voilà, il y a eu quelques autres groupes de radio, réseaux religieux qui sont développés par la suite, des radios évangélistes comme Phare, FM, etc. Mais enfin, bon, les radios, les réseaux politiques n'ont pas eu un succès extraordinaire. C'est surtout, en fait, les radios commerciales et musicales qui se sont développées sous forme de réseau. Et quand on est une radio commerciale, s'il y a un sujet qu'on doit éviter, c'est le sujet de la politique. Hein. Donc on peut avoir des idées politiques, bien évidemment, mais il ne faut pas les exprimer au micro, parce que là, on commence par cliver son auditoire. Et donc c'est antinomique, hein, la politique et le commerce. Donc les réseaux commerciaux, je parle surtout des réseaux musicaux. Bon, peut-être que pour les réseaux d'information continue, bon, il y en a eu très peu, hein, c'est peut-être différent, mais enfin pour les réseaux musicaux, on évite complètement le sujet de la politique à l'antenne. Hein. Donc on peut pas dire que ce soit vraiment des préoccupations ou des arrière-pensées politiques qui ont fait se développer les réseaux en France. C'était des considérations purement commerciales. Purement commerciales, ça veut dire d'abord augmenter les recettes et ensuite diminuer les coûts. Hein. Donc augmenter les recettes, c'est quand même ça le principal. C'est-à-dire, si on voulait s'étendre et avoir un grand nombre de villes, c'était pour pouvoir avoir une couverture nationale, attirer des annonceurs nationaux, et puis surtout vendre son espace publicitaire plus cher. Parce que plus on a d'auditeurs, plus on peut vendre cher son espace publicitaire. Donc ça, c'est la première préoccupation de tous les réseaux commerciaux qui se sont développés en France. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a augmenté les recettes, on regarde si on peut pas grignoter un petit peu sur les coûts. Alors là, évidemment, comme la loi interdisait de financer avec de la publicité locale des stations qui retransmettaient un réseau en passif, il fallait conserver quand même des studios locaux, mais bon, moins ça coûtait, mieux c'était. Donc ça veut dire que on s'est contenté souvent, pour la plupart des réseaux, d'avoir un journaliste local et un animateur peut-être pour accompagner ce journaliste, mais bon, ça se limitait à quelques intervenants sur l'antenne en décrochage, quoi. Donc effectivement, ça c'est la compression des coûts. Ensuite, que dire d'autre ? Évidemment, une radio commerciale, par définition, c'est un choix qu'on fait, et un choix commercial, c'est un choix politique. Donc, pour toutes les radios qui étaient issues de la mouvance de gauche, qui était quand même majoritaire au niveau des radios libres dans les années 80, hein, c'est-à-dire des radios qui étaient plutôt de gauche, ou voire même libertaires, la radio commerciale, c'était nécessairement une radio de droite, ça pouvait pas être autre chose, quoi. Hein. Encore aujourd'hui, cette idée est encore répandue. Donc, à partir du moment où on fait de la radio pour faire du fric, on devient une radio de droite. Hein. Donc, ça, c'est une façon un peu binaire de voir les choses. Je pense quand même que la réalité est un petit peu plus complexe. Radio de droite commerciale, radio de gauche associative, bon, ok, c'est souvent une constante, mais c'est pas une règle qui s'applique dans tous les cas. Et puis, je pense que la réalité est un petit peu plus complexe.
Qu'est-ce qui va accélérer finalement ces réseaux ? L'automatisation des stations par des robots de programmation, le formatage de l'antenne ?
L'automatisation des stations a été effectivement un progrès technique important pour pouvoir baisser les coûts.
De mémoire, je crois que c'est arrivé avec le réseau qui était monté par l'UGC, le réseau ITFM.
Oui, ITFM, oui. Ouais. ITFM en 86, c'était véritablement la première radio qui était 100% automatisée. C'est-à-dire qu'elle avait banni totalement les animateurs de l'antenne. Il y avait des chroniques qui étaient enregistrées quand même.
Des chroniques humaine, cinéma, hein. Oui.
Il y avait des chroniques sur le cinéma. C'était une radio qui mélangeait cinéma et puis programmation qui était pop rock, on va dire. Hein. Donc en fait, il y avait un robot auquel ils avaient même donné un nom, c'était Régis, pour humaniser un petit peu plus l'antenne. Mais donc c'était en fait tout simplement bon. Un robot qui faisait intervenir et se succéder donc les chroniques enregistrées sur le cinéma et puis une programmation musicale. Et c'était 100% donc automatisé. Mais bon, ce groupe ITFM a duré 3 ans, je crois, de 86 à 89. Mais la robotisation de la programmation, qui était d'abord utilisé par les radios pour le programme nocturne, parce que là, c'était difficile de trouver des animateurs qui animent toute la nuit. Donc, on avait d'abord mis en place ça la nuit, hein, sur les antennes locales. Puis ensuite, ça s'est généralisé, bien évidemment. Et aujourd'hui, toutes les radios, y compris associatives, ont eu une aide de logiciels pour leur programmation, bien évidemment. Hein. Voilà. Quant au formatage d'antenne, ça c'est un autre sujet. Le formatage d'antenne, c'est pas ça qui permet de faire des économies. Ça permet peut-être d'améliorer simplement la commercialisation. Pour une radio commerciale, le but c'est d'avoir le public le plus large possible. Mais néanmoins, il existe des segments de marché. Et aujourd'hui, on peut pas comparer l'auditoire de Skyrock avec celui de Nostalgie, par exemple. Hein. Donc en fait, on a segmenté le marché en tranches d'âge, on va dire. Hein. Grosso modo, il y a eu les 15-25 ans, les 30-45 ans, et puis les seniors, hein, voilà. Et donc chaque radio c'est partager le marché publicitaire en groupe d'âge, parce qu'évidemment on n'a pas les mêmes goûts musicaux quand on a 18 ans que quand on a 55. Hein. Donc le formatage a permis de segmenter le marché et d'améliorer la commercialisation auprès des annonceurs. Hein, voilà, l'annonceur qui s'adresse avec ses produits à des jeunes, ben va plutôt prendre de l'espace publicitaire sur Skyrock ou sur Fun Radio que sur Nostalgie et ainsi de suite. Donc c'est simplement en fait un formatage marketing. Hein. Mmh. Voilà. Mais ça n'a pas permis en soi le formatage de faire des économies de production. Ça a permis simplement d'améliorer la vente de l'espace publicitaire.
Mmh. Est-ce que, dans la constitution des réseaux, l'offre de diffusion satellite aux professionnels, via les satellites Télécom 1, Télécom 2, TDF et Astra, va être très rapidement adoptée ou restera longtemps trop coûteux par rapport à des faisceaux hertziens ?
Ça a été très rapidement adapté par les réseaux qui étaient déjà en place, notamment Énergie, dès 86, parce que je crois que les premiers satellites ont dû être envoyés à peu près à cette période-là. Dès 86, Énergie a profité du satellite pour son réseau. C'était une qualité sonore incomparable par rapport à ce qui existait précédemment. Deux, ça avait une couverture qui allait même au-delà de la France. Ça a permis d'ailleurs au réseau de s'étendre un petit peu au-delà des frontières françaises en Europe, et pas seulement dans les pays francophones. Hein. Mmh. Europe 2 a eu des stations en Europe de l'Est, etc. Donc les réseaux en place ont pu rentabiliser ce coût, parce que c'était un coût important, bien évidemment, de pouvoir obtenir une place sur un satellite. Mais quand on avait déjà une vingtaine, une trentaine, voire une centaine de stations locales, le coût était très largement amorti. En revanche, bien évidemment, le coût était dissuasif pour un nouveau réseau qui voulait se constituer. Il ne pouvait pas partir de zéro en prenant une place sur un satellite au coût où c'était sans avoir encore de stations locales dans son réseau. Donc ça a été à la fois un booster, on va dire, pour les réseaux existants, mais ça n'a pas profité à la création de nouveaux réseaux, ça c'est évident.
Je vous remercie en tout cas pour le clin d'œil à Booster FM avec qui on partage notre fréquence FM. Ça fera plaisir. La plupart des têtes de pont de réseaux nationaux sont parisiens. Alors qu'est-ce qui empêche l'émergence d'un réseau depuis Strasbourg, Lyon ou Mont-de-Marsan ? Est-ce que finalement la France est un peu trop jacobiniste quelque part ?
Oui, très certainement, elle doit le rester. Mais en tous les cas, il n'y a aucune règle, aucune loi qui interdit à un réseau de se créer à partir d'une ville de région. D'ailleurs, il y en a eu quelques-uns. Hein. Il y en a qui existent toujours, d'ailleurs. Hein. Par exemple, on parlait tout à l'heure de RCF, le réseau des radios chrétiennes. RCF est né à Lyon. Et il y a toujours, je crois, son siège social qui est toujours basé à Lyon. Donc, c'est un réseau qui est né en région.
Là, hein. C'est particulier. C'est parce que, aussi, l'Église de France, l'archiépiscopat est à Lyon. Donc,
Tout à fait. On a un cas de figure qui est un petit peu particulier. Il y a eu d'autres réseaux. Hein. Bon, parmi les réseaux existants, Nostalgie est né à Lyon également. Il n'est pas resté à Lyon très longtemps, il est resté quelques années, je crois, et très vite, à partir du moment où elle a eu une fréquence à Paris, bon, elle est partie de Paris. On parlait tout à l'heure aussi de Fun Radio. Bah, Fun Radio, c'est aussi une création dissidente des radios énergie du sud de la France, dont Toulouse faisait partie, Montpellier et quelques autres. Mais à partir du moment où Fun a eu une fréquence à Paris, bon, elle a été attirée comme un aimant par Paris. Et en fait, c'est ça le problème. Hein. Il y a eu beaucoup d'autres réseaux qui ont disparu depuis, hein, qui sont nés en région. Métropolis est né à Lille, par exemple. Kiss FM est né à Bordeaux. Ça, c'est des réseaux qui ont existé pendant quelques années. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, aujourd'hui, on est dans un pays qui est au moins centralisé. Paris reste quand même le centre de toute la diffusion artistique, le centre des journalistes, des politiques, donc tout ce qui alimente une antenne de radio aujourd'hui, hein, c'est-à-dire les artistes, les journalistes, la politique, etc. Donc Paris domine, donc chaque fois qu'une radio naît ou un réseau naît en région, bah, il est attiré comme un aimant par Paris, et puis à un moment donné, bah, il ouvre son studio à Paris, et puis c'est plus facile pour lui de recevoir des artistes dans ses studios Quand on est à Toulouse ou quand on est à Lille, bah, faut attendre que les artistes soient de passage pour pouvoir les interviewer dans le studio. Alors qu'à Paris, on claque des doigts et les artistes sont là le jour même, quoi. Hein. Donc c'est peut-être plus simple de
On pensera à Sud Radio, effectivement, qui a eu beaucoup plus de facilité à avoir des artistes, entre guillemets, depuis qu'ils sont remis à Paris avec leur nouvel actionnaire. On a quand même un cas particulier à Toulouse, car à l'an 2000, de mémoire, donc on a une trentaine de radios qui émettent. D'ailleurs, c'est toujours le cas à peu près d'occupation de la bande FM sur Toulouse. Et pourtant, depuis 95-96, je crois que la dernière, c'était Laser FM, jusqu'à à peu près 2010, on a aucune radio commerciale indépendante sur Toulouse. Et depuis, on a eu l'émergence de 100% radio, Toulouse FM. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on a un regain des radios locales commerciales? Et est-ce que c'est un retour que l'on voit aussi dans d'autres agglomérations?
Vous avez dit le mot juste, c'est-à-dire que Toulouse est vraiment un cas particulier. Et vraiment un cas particulier en France pour des raisons historiques. Les raisons historiques sont les suivantes. C'est que des années 50 jusqu'aux années 80, 90 et même 2000, Toulouse était le centre de deux radios périphériques qui étaient Radio Andorre et Sud Radio. Et c'était la seule ville de France qui hébergeait à la fois, en dehors de Paris, parce que Paris hébergeait RTL et Europe 1, leur studio du moins, mais Toulouse était la seule ville de France à héberger des studios donc de ces deux radios périphériques, Radio Andorre et Sud Radio, mais surtout d'héberger leur régie publicitaire. Donc oui, si vous voulez, pendant...
Parce que sauf erreur, je crois pas que Radio Andorre émettait réellement d'émissions en direct depuis Toulouse, je crois que c'était des programmes préenregistrés.
Alors oui, les programmes étaient... Si, il y a eu quelques programmes diffusés en direct de Toulouse, mais très peu au niveau de Radio Andorre. Mais Radio Andorre, de toute façon, a disparu en 1981. Mmh. Ils avaient un studio qui était rue Bayard, je crois, près de la gare de Toulouse. Ils avaient un studio où ils recevaient des artistes de passage à Toulouse. Parce que pour faire monter les artistes en Andorre, c'était quand même un petit peu compliqué, surtout en hiver, et surtout à cette époque-là. Donc les interviews se passaient souvent dans le studio de Radio Andorre à Toulouse. Mais ce qui était le plus important, c'était pas le fait d'avoir un studio. Bon, et puis Sud Radio avait aussi un petit studio en Andorre, mais avait l'essentiel de ses studios à Toulouse. Tous les Toulousains se souviennent des studios de Sud Radio. Hein. Mais ce qui était le plus important, c'est que ces deux stations avaient surtout leur régie publicitaire qui était basée à Toulouse. Et ça, c'est le nerf de la guerre pour une radio, c'est-à-dire que si vous n'avez pas des commerciaux qui vont frapper à toutes les portes tous les jours dans une ville, les recettes publicitaires, elles rentrent pas. Et pendant 40 ans, si vous voulez, deux radios commerciales ont ratissé, fidélisé tout le marché publicitaire toulousain et même au-delà de Toulouse, bien évidemment, tout le midi de la France. Et ça, ça laisse quand même des traces quelque part. C'est-à-dire que dans les années 80, quand les radios se sont libérées, et en 84, quand les radios commerciales ont pu émerger dans toutes les villes de France, le marché était assez vierge dans la plupart des villes de France, mais il l'était pas du tout à Toulouse. À Toulouse, il y avait quand même des habitudes ancrées. Alors, plus avec Radio Andorre qui avait disparu entre-temps, mais avec Sud Radio qui restait la radio la plus écoutée de Toulouse, d'une part. Elle avait un bassin d'audience qui était considérable. Et puis, deux, il y avait un travail commercial qui avait été fait sur le terrain, et ça c'est quand même l'essentiel, et donc le marché était totalement ratissé, et quasiment aucune station indépendante commerciale n'a pu se créer dans les années 80-90, voire même début des années 2000 à Toulouse, pour cette raison. Hein. Mais bon, en 97, Sud Radio a décidé de fermer ses studios de Toulouse et de s'implanter totalement à Paris. Elle avait déjà anticipé au niveau des programmes, c'était de moins en moins régional, hein, il faut dire quand même les choses comme elles sont. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une ville de Toulouse qui était tout à fait atypique par rapport aux autres capitales françaises. La catégorie B, donc les radios indépendantes commerciales, étaient totalement sous-représentées. Donc, il y a eu une sorte d'appel d'air, on va dire, parce que la nature ayant horreur du vide, à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas de raison, il y a un marché publicitaire important sur une ville comme Toulouse, qui est quand même une grosse ville, la région aussi. Donc, il y a eu à la fois, vous parliez des nouvelles stations qui se sont créées récemment. Bon, 100% radio n'est pas une radio toulousaine, c'est une radio qui s'est créée dans le Tarn.
Oui,
du coup, elle s'est dit, je suis partout dans le midi de la France, j'ai des fréquences dans tout le midi de la France, mais j'en ai quasiment pas à Toulouse. Et donc, elle a postulé pour avoir une fréquence à Toulouse, et puis elle l'a obtenue assez facilement, puisqu'il y avait un déficit de radio de catégorie B. Et Toulouse FM est apparu un petit peu avant le déménagement de, je crois que c'est en 2007 ou 2008, je ne sais plus très exactement, mais Toulouse FM, en fait, s'est créé aussi parce qu'il y avait un vide de radio commerciale. Ce qui n'empêche pas, je dirais, la qualité de leur programmation, leur professionnalisme, parce que ça reste quand même indispensable. Hein. Il suffit pas de créer sa radio pour avoir le succès du jour au lendemain, parce qu'il y a un déficit de radio B. C'est simplement aussi la qualité des programmes qui fait qu'une radio émerge ou n'émerge pas. Donc en fait, il y avait des places à prendre à Toulouse, elles ont été prises. Bon, là, on a cité deux radios, peut-être y en aura-t-il d'autres. Mais en tous les cas, ce phénomène ne s'est pas produit sur les autres villes de France. Et ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de création de nouvelles stations de radio indépendantes commerciales dans des villes comme Lyon, Marseille, ou Lille ou Strasbourg. En revanche, il y a eu consolidation des radios existantes, c'est-à-dire certaines radios se sont véritablement imposées dans ces villes-là. Ont créé leur petit réseau régional aussi, ça c'est important, c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment. Il y a beaucoup de radios qui commencent à sortir des murs de la ville pour s'étendre à leur département, puis s'étendre à leur région, voire même plusieurs régions, hein, la Bretagne, la Normandie, etc., peuvent intéresser une seule antenne. Donc ça c'est le phénomène auquel on assiste actuellement, mais des créations de nouvelles radios à part à Toulouse, effectivement, avec le cas Toulouse FM, qui date quand même déjà maintenant d'une bonne dizaine d'années, hein, il n'y a pas vraiment ce cas de figure qui s'est produit ailleurs.
Vous, personnellement, quand vous n'êtes pas dans votre activité professionnelle, quand vous n'êtes pas dans l'écriture pour s'entendre radio.fr ou l'annuaire de la radio et tout ça, qu'est-ce que vous écoutez ? De la radio ? Des podcasts ? Des archives ?
De tout. De tout. J'écoute de la radio, j'écoute des podcasts. Parce que les podcasts, ça permet quand même d'écouter les radios qu'on n'a pas la possibilité de capter, parce qu'on n'est pas tout le temps disponible à 100% de la journée. Donc, il y a certaines émissions que j'écoute qu'en podcast, parce qu'elles passent à des heures où je suis pas disponible. Donc, le podcast me permet de les écouter en différé, on va dire. Hein. Voilà. Mais j'écoute vraiment tout. J'écoute tout. Je suis un passionné de radio. Donc, comme j'ai aussi un site qui s'appelle l'annuaire de la radio, qui recense des sites radiophoniques et puis qui propose leur écoute en direct, avant de les inscrire, ces radios, je les écoute. Donc, j'écoute des radios francophones du monde entier. Ça, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit quand même que le traitement de l'actualité et de l'information n'est pas le même au Canada, en Belgique qu'en France, par exemple. J'écoute des radios associatives parce qu'il y a parfois des sujets qui m'intéressent. Hein. Il peut y avoir des émissions sur la philatélie ou des émissions sur d'autres sujets ou sur la bande dessinée qui peuvent avoir un intérêt. Et puis j'écoute de temps en temps, j'ai besoin aussi, quand je travaille et quand j'écris, j'ai plutôt besoin d'avoir un fond sonore musical. Donc là, soit je me mets sur des Spotify et compagnie, c'est-à-dire je sacrifie à la mode du streaming, soit je me mets sur une web radio qui me diffuse que de la musique sans intervention publicitaire et sans parole. Ça me permet de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Donc il n'y a pas de moment dans la journée. J'écoute aussi le service public. Le matin, par exemple, j'écoute les informations de France Inter. Bon, voilà. Donc ma journée, elle est ponctuée avec tout type d'écoute, du streaming à la radio associative. J'ai pas de règles.
Jean-Marc Prince, vous êtes l'auteur et le créateur de l'excellent site s'entendre-radio.fr qui est absolument formidable, une archive phénoménale. S'il y a une seule page que vous recommanderiez à mes audilecteurs, ce serait laquelle ? Par où commencer ?
Écoutez, c'est ce qu'on appelle la home page, c'est-à-dire la page d'accueil. elle va vous permettre de pouvoir aller sur la totalité du site en fonction de ce que vous aimez. Mais ce que je voudrais dire, ce site va être rénové totalement en début. Bon, je pensais mettre sa nouvelle version en ligne cette année 2021. Malheureusement, c'est un travail énorme et j'ai pris un petit peu de retard. Donc, ce sera courant 2022. Le site va à peu près être multiplié par 10 au niveau de son volume, voilà, qui est déjà pas mal important, mais là on va être sur un volume beaucoup plus important, avec beaucoup beaucoup plus d'archives sonores encore, beaucoup plus d'archives photographiques de toutes les radios, donc des années 20 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je travaille beaucoup sur cette nouvelle version tous les jours, et j'espère pouvoir la mettre en ligne le plus rapidement possible. Mais bon, voilà, là je donne vraiment rendez-vous à vos auditeurs pour cette nouvelle version qui sera annoncée, je l'espère, un petit peu partout. Sur le début de 2022.
Mille merci en tout cas de votre disponibilité.
C'est moi qui vous remercie de votre accueil.